Bonjour. Alors, un fait assez marquant s'est produit début juillet, le 8. Pour la première fois depuis 2005, l'Italie a emprunté moins cher que la France.
Oui, tout à fait. Sur 5 ans, l'Italie était à 2,65% et la France juste au-dessus, 2,67%.
C'est pas énorme comme écart, mais symboliquement, ça interpelle, non?
Exactement. C'est un signal. Les marchés financiers, ben, ils nous disent quelque chose sur leur perception du risque.
Et ça nous amène directement à l'analyse de Guy de la Fortelle de Toxin Media.
Oui, il pose une question assez directe. La France, est-ce qu'elle serait devenue le nouvel homme malade de l'Europe?
C'est une formule choc, c'est sûr, hein?
Bien sûr.
Et son analyse met le doigt sur un chiffre clé.
56%.
56% de la dette publique française détenue par des investisseurs étrangers.
Voilà. Et là, tout de suite, ça pose la question de la souveraineté économique, forcément.
Absolument. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'explorer un peu ça. D'où ça vient? Qui sont ces détenteurs? Et qu'est-ce que ça implique, concrètement?
Alors, revenons sur ce croisement des taux France-Italie. C'est vrai que, historiquement, la France avait toujours une sorte de prime de confiance.
On empruntait moins cher.
Oui. Cette inversion, même minime, elle suggère que les investisseurs voient peut-être un peu moins de risques en Italie maintenant. Malgré un niveau de dette, rapporté au PIB, qui reste plus élevé en Italie.
Et si on regarde depuis le Covid, les chiffres sont assez parlants aussi, non? La dette française a beaucoup augmenté?
Ah oui. Les dettes négociables françaises, c'est plus 600 milliards d'euros depuis la crise sanitaire. On est autour de 2600 milliards au total.
Et l'Italie?
L'Italie, c'est plus 350 milliards sur la même période. Eux, ils sont à 2500 milliards. Donc une augmentation moins forte.
Comment on explique cette différence de dynamique récente?
Ben, une des raisons avancées, c'est la gestion de la crise. Le fameux « quoi qu'il en coûte » français.
Ouais.
Il est souvent décrit comme ayant été très large, peut-être moins ciblé que les aides italiennes. Et ça a creusé le déficit français.
D'ailleurs, on a du mal à repasser sous les 5,5% de déficit par rapport au PIB, c'est ça?
Exactement. C'est un objectif qui semble difficile à atteindre pour l'instant.
Et l'Italie, de son côté, est-ce que l'expérience de la crise de la dette de 2010-2011 les a rendus plus disciplinés?
C'est une hypothèse forte. Il semble que l'Italie ait vraiment tiré les leçons de cette période difficile. Ils ont fait des réformes et surtout, ils ont réussi à dégager un excédent primaire.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que leur budget est positif avant de payer les intérêts de la dette. Et ça, pour les marchés, c'est un signal très positif sur la capacité à gérer la dette sur le long terme.
Contrairement à la France, qui est toujours en déficit primaire.
Voilà. C'est une différence importante dans la trajectoire perçue.
Alors, revenons à la structure de notre dette française. Qui la détient vraiment? Donc, on a dit 56% d'investisseurs étrangers.
Oui, et c'est un point clé. On ne sait pas précisément qui sont ces investisseurs étrangers. L'information n'est pas publique.
D'accord. Et le reste?
Alors, il y a 22% qui sont détenus par la Banque de France. Mais attention, elle agit dans le cadre des programmes de la BCE, la Banque Centrale Européenne.
Donc, pas une décision purement nationale non plus.
Non, ça échappe en partie au contrôle direct de Paris. Et il reste donc les derniers 22%. Ça, ce sont les autres détenteurs nationaux, banques, assurances, ménages, etc.
Et quand on compare avec l'Italie?
Le contraste est assez net. En Italie, on estime qu'environ un tiers seulement de la dette est détenue par des étrangers, beaucoup moins.
Et cette part étrangère chez nous, elle a augmenté récemment?
Oui, notamment depuis que la BCE a arrêté ses grands programmes de rachat d'actifs. La France a dû se tourner davantage vers les marchés internationaux pour se financer.
Ce qui nous rend plus dépendants.
Exactement. Et cette structure de dette, très internationalisée, c'est un facteur que les marchés regardent de près. Ça peut expliquer en partie pourquoi leur perception change par rapport à l'Italie.
L'analyse de Guy de la Fortelle va plus loin. Elle pointe du doigt l'influence possible de très gros gestionnaires d'actifs, américains notamment.
Oui, il cite BlackRock par exemple. Il y a des estimations qui circulent comme quoi BlackRock détiendrait autour de 6% de la dette française.
6%, juste BlackRock?
C'est une estimation, hein. Et si on ajoute d'autres grands comme Vanguard, etc., on pourrait arriver à quelque chose comme 15% détenu par ces grands acteurs américains.
C'est considérable.
Oui. Et Guy de la Fortelle a cette phrase assez parlante. On ne peut pas comprendre les décisions du Parlement sans comprendre qui détient la dette de la France et quels sont les intérêts économiques derrière.
Il donne un exemple concret avec l'éolien.
Oui, il suggère un lien potentiel. BlackRock serait non seulement un gros créancier, mais aussi le premier investisseur privé dans l'éolien en France.
Ah oui?
Du coup, l'analyse s'interroge, est-ce que ça peut influencer certains débats au Parlement sur l'énergie, qualifiés par la source d'absolument lunaire? C'est une question ouverte.
C'est ce qu'on appelle le risque de capture réglementaire, c'est ça? Que les politiques publiques finissent par servir les intérêts des créanciers.
C'est exactement ça. Sans preuve formelle d'influence directe, la convergence d'intérêts pose question. Et on a déjà vu des formes de pression par le passé.
Les lettres de la BCE en 2010-2011.
Et voilà, Trichet qui écrivait au gouvernement italien et espagnol pour conditionner l'aide de la BCE à des réformes très précises. Ce n'est pas anodin.
L'analyse évoque même une sorte de laissez monétaire américaine. Comment ça?
Il y a les liens étroits entre la BCE et la Fed, la Banque centrale américaine. Et aussi parce que la BCE confie parfois des mandats pour certaines opérations à des géants comme BlackRock. Ça crée un écosystème financier très interconnecté où l'influence américaine pourrait se faire sentir.
C'est un tableau assez complexe de dépendance croisée, finalement.
Tout à fait. Et les risques qui en découlent sont assez clairs. D'abord, une perte d'autonomie budgétaire. Les choix du gouvernement sont scrutés, jugés par les marchés.
Ensuite, une vulnérabilité géopolitique accrue.
Potentiellement, oui. Et puis ce risque de politique publique qui pourrait être biaisé en faveur d'intérêts étrangers, comme l'exemple de l'énergie le suggère.
Si on fait le calcul, 56% étrangers plus 22% via la BCE.
Ça fait 78%. Presque 80% de la dette négociable qui échappe au contrôle direct de l'État ou des acteurs purement nationaux.
En résumé, donc, ce petit croisement des taux avec l'Italie, ce n'est peut-être pas juste un accident de parcours.
C'est plutôt un symptôme, oui.
Le symptôme d'une tendance plus lourde est la dépendance financière croissante de la France avec cette part majeure de la dette entre des mains étrangères.
Ce qui met sur la table forcément la question de la transparence. Qui détient vraiment notre dette?
Et comment retrouver des marges de manœuvre?
Absolument. C'est un débat essentiel pour la souveraineté. Et ça nous laisse avec une interrogation pour la suite, une réflexion. Jusqu'où les choix politiques d'un pays peuvent-ils rester vraiment autonomes?
Quand on dépend à ce point d'acteurs extérieurs pour se financer, des acteurs dont les objectifs ne sont pas forcément les nôtres.
Exactement. C'est toute la question de la marge de manœuvre réelle d'un État dans ce contexte financier globalisé.